J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas. Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux, et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la députée de la circonscription de Taschereau, Catherine Dorion, et plus tard dans l'émission, on aura droit à une lecture de Marjolaine Beauchamp. Catherine Dorion est députée de la circonscription de Taschereau depuis le 1er octobre 2018. Elle est diplômée en art dramatique du Conservatoire d'art dramatique de Québec, en relations internationales et droit international de l'UQAM, et en War Studies du King's College de Londres. Elle se tient en équilibre au-dessus de plusieurs cases, chroniques, politique active, poésie, réalisation, roman et théâtre. Comme première question, on a eu envie de lui demander quelle était sa définition de la poésie. Qu'est-ce que la poésie pour elle?
Oh, moi, j'aime ça, ce mot-là, puis je me suis mis à lui coller tout feeling qui nous décolle du train-train, du hamster dans nos têtes, là, de nos conditionnements. Fait que tu marches dans la rue, tu t'en vas chez telle personne chercher tel colis parce que telle affaire, puis tout à coup, quelque chose arrive qui te sort de ça, puis tu t'es tout à coup dans le moment présent, tu tombes dedans comme dans un peu comme dans un lit de ouac, là. Tu tombes dedans, tu es enveloppé par ça, c'est extrêmement confortable, ça fait du bien. Souvent, c'est accompagné d'une émotion de « Hey, il y a telle chose qui se passe en ce moment, je peux voir ça, je peux entendre ça ou je peux sentir ça, c'est extraordinaire. » Puis ça te rentre dans la peau, dans le corps, ça bouge des choses en dedans, ça replace des trucs. C'est comme l'ostéopathie du moment présent.
Puis j'imagine que, dans le fond, si la poésie est l'ostéopathie du moment présent, par le biais de la poésie, que tu gères un peu le moment présent. En fait, si j'étais parti de ta définition pour te poser une deuxième question, je t'aurais demandé, c'est quoi le rapport de la poésie avec le langage?
Les mots sont des choses qui n'existent pas, là, tu sais, c'est des concepts, c'est pas des choses qui sont là devant toi, que tu sais, c'est pas du matériel, bref, c'est des mots, c'est des concepts. Puis avec les concepts, tu peux faire réapparaître quelque chose de réel, qui est, une tristesse, une inspiration, une émotion, quelque chose qui se passe dans ton corps, quelque chose qui te donne envie de faire d'autres choses que ce que tu aurais fait. Fait que le rapport avec le langage, c'est que les mots qui sont une espèce de ramassis un peu aléatoire, là, parce que les mots veulent dire des choses différentes selon chaque personne qui les écoute et tout ça, mais ces espèces de ramassis de concepts et d'idées qui repassent de l'abstrait au concret au moment où tu les absorbes ou tu les lis. Puis l'agencement de certains mots, donc l'agencement de certains concepts, images, idées, tout à coup crée une œuvre à l'intérieur des personnes qui lisent. Puis c'est une œuvre que même l'auteur n'a pas pu prévoir tant que ça. T'sais, il essaye, on lance des perches quand on écrit, mais ce qui est créé à l'intérieur du lecteur, c'est la création du lecteur finalement. C'est ce que lui a fait avec les mots qu'il lit. Puis donc le rapport de la poésie avec le langage, c'est que le langage permet de créer des moments poétiques, des choses réelles là, qui te ramènent dans le moment présent. Puis qui te font faire une œuvre d'art d'émotion, finalement, là, reliée au concept.
Mais pour toi, la poésie peut exister en dehors de son rapport au langage?
Ben, surtout, moi, d'après, pour moi, la poésie existe surtout en dehors de son rapport au langage. C'est un état. T'sais, on peut parler la poésie de qu'il y a dans des funérailles, la poésie des oiseaux qui chantent dans le parc, la poésie d'un regard échangé. La poésie de donner naissance, de tomber amoureux, de, de regarder ses parents vieillir dans un moment de silence en après-midi pendant que le frigo fait son petit bruit en arrière. T'sais, tous ces moments-là peuvent être des moments surprenants de poésie. Tu ne sais pas que ça va arriver, puis ouf, ça te remplit. Mais quand on parle de la poésie comme cette forme d'art là, qui passe à travers des mots qu'on met ensemble puis qui font des choses à l'intérieur de soi quand on les lit, c'est que l'effet est le même. Tu sais, les mots peuvent créer cette espèce de tombée sur soi du moment présent qui t'émeut parce que t'étais pas dans le moment présent, là. C'est, je sais qu'on, tout le monde parle de moment présent, puis il faut être dans le moment présent, puis là, ça finit, on entend tellement parler, puis dans tellement de livres de psychopathes, puis tout, que ça finit par être quétaine, mais tu sais, n'empêche que c'est la seule chose qui existe, là, pour un humain, là. Tu sais, le moment présent, c'est la seule réalité tangible. Puis nos sens, notre émotion, et pour moi, quand elle arrive, c'est parce qu'il y a un décalage qui existait entre où on était, nous, dans notre tête, puis où on est, nous, dans notre corps, dans notre vie, dans ce qu'on est en train de faire. Puis des fois, le décalage, en une seconde, se défait. Puis ça peut être la poésie qu'on lit qui nous amène ça, mais ça peut être toutes sortes de moments dans la vie qui peuvent nous ramener à ça.
Et donc, si on prend ta définition de la poésie, on peut faire de la poésie avec des mots, mais on peut en faire avec autre chose aussi.
Ben oui. On peut en faire avec toutes les formes d'art, tous des moments. Moi, j'aime ça quand je suis en forme... créer des moments poétiques sans crier gare, là, puis sans même le dire que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis avec des gens, puis on fait quelque chose. Je sais pas, une phrase inattendue, un cadeau inattendu, une surprise qui tranche dans le convenu, puis le défait en petites miettes. Là.
Puis à quoi ça sert, ça, dans la société, de trancher dans le convenu?
En fait, c'est tout ce qui ne sert pas. T'sais. On est super bien élevé à aller dans ce qui sert, puis à ces utilitarismes. Je dois accomplir tel et tel objectif. Puis si tu décolles pas de ça, ça se passe vite, là, le moment entre la naissance puis la mort. Là, je veux dire, il y a des années, des fois, qu'on se demande ce qu'on a fait. Là, on se souvient à peine. T'sais. Fait que je pense que pour ceux qui veulent que tout serve à quelque chose, dont je suis par moment, bien malheureusement, il y avait bien, bien beaucoup de monde d'entre nous. Là. Mais pour cette pensée-là qui veut que tout ce qu'on fasse serve à quelque chose, sans qu'on sache trop c'est quoi ce quelque chose-là, la poésie ne sert à rien, c'est inutile. Mais pourquoi c'est quand nous tombe dessus quelque chose d'inutile et de complètement gratuit qu'on a les larmes aux yeux? Tu sais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais ça me ferait bien chier de devoir dire « Oh, c'est parce que ce qui nous tombe dessus à ce moment-là, la poésie, l'effet que ça nous fait, c'est bon parce que ça c'est bon pour notre santé mentale. Alors, on va pouvoir être en meilleure santé mentale pour pas faire de burn-out, pour plus que qu'on soit utile à je ne sais pas quoi. » C'est une roue sans fin, là, cette histoire d'utilité. Là. Mais bref, moi, je sais que je m'en fous que ce soit utile ou pas. J'en veux puis j'en ai besoin.
Donc, je pense que c'est Shirley, Ben Lerner, dont on s'inspire, c'est Shirley qui dit que la poésie est utile par son inutilité.
À la page 58 de l'édition traduite en français de La haine de la poésie, on peut y lire « Pour les romantiques comme Shelley, la poésie contrebalance l'avarice calculatrice d'une société matérialiste, offrant une alternative à un utilitarisme froid, aveugle, à tout ce qui ne saurait être instrumentalisé. L'usage de la poésie est ainsi indissociable de son inutilité. C'est précisément en raison de la nature contradictoire de la vocation poétique, elle est à la fois plus ou moins qu'un travail, que son utilité dépend de son inutilité pratique, que le labeur du poète nous met mal à l'aise et nous inspire le mépris.
Moi, je considère que la littérature, et puis là, je m'inscris pas en faux là, par rapport à ta définition de la poésie, que je trouve fort juste. Mais pour moi, la littérature, c'est de l'art qu'on crée avec le matériau langage. Et donc, je voulais savoir, est-ce que dans le langage, est-ce qu'il y a dans le langage des rapports de pouvoir?
Ben oui, c'est sûr. Mais le pouvoir est partout. Là, c'est sûr que moi, en ce moment, je suis en politique. Fait que, tu sais, autant les chimistes disent « tout est chimie », les économistes disent « tout est économique », puis probablement que les gens en politique disent « tout est pouvoir, tout est un rapport de pouvoir, tout est un rapport de force ». Fait que, mais en ce moment, le langage, c'est sûr, je veux dire, tu me dis « je fais un podcast sur la poésie », puis je te dis « à quoi ça sert », je viens de t'assommer, là, je viens d'imposer avec la phrase « à quoi ça sert ?» point d'interrogation, un terrain où disons, c'est pas moi qui va te demander à quoi ça sert, mais mettons, la personne qui te demanderait ça, elle t'impose un terrain où la poésie est perdante d'avance. Fait que c'est une façon de dire, écrase, va-t'en avec ton trip sur la poésie. Mais ça, c'est juste un petit exemple, mais dans tout, je veux dire, combien de fois par jour on parle à quelqu'un, puis l'autre personne, seulement avec des mots, nous fait sentir inadéquat, moche, pas savant, pas beau, pas à notre place. Puis que là, on se met à lutter nous-mêmes avec des mots pour reprendre une place ou pour se défendre ou nous-mêmes, des fois, pour en assommer d'autres. Bref, le langage, c'est les rapports de pouvoir sont partout dans le langage. Encore une fois, ce qui est le plus fun, c'est quand c'est pas ça qui se passe. Quand le langage existe sans qu'il y ait ça. T'sais.
Je m'intéresse aussi à cette idée que il y a une communauté dans le langage. Donc, est-ce que le langage permet la communauté ou est-ce que il y a du langage parce qu'il y a une communauté? Puis ces rapports de pouvoir-là, oui, on peut certainement assommer, on peut blesser avec le langage, mais on peut aussi convaincre, on peut faire passer des idées en douce, en choisissant son champ lexical, par exemple. Et puis ça, justement, ça m'apparaissait être une approche utilitaire du langage, une approche qui poursuit des objectifs de convaincre ou de pouvoir. Il me semblait que la poésie propose un autre rapport au langage.
C'est vrai, c'est que, dans le fond, tantôt je te disais la poésie, pour moi, c'est partout, c'est dans le moment, dans des moments présents inattendus. Ça veut dire que tu as des moments où tu es affairé, où ce que tu fais est utile, puis tout à coup, tu as un moment qui t'arrive, ça peut être... Encore une fois, ça a l'air quétaine, mais le chant des oiseaux dans un arbre, ça m'est déjà arrivé de faire comme « Hey, voyons, je n'avais pas remarqué qu'ils chantaient autant », à me mettre à les écouter puis à me dire tout à coup « Mais c'est d'une telle beauté, le chant des oiseaux. » C'est quétaine ce que je dis, mais ce n'est pas quétaine, c'est vrai. Genre, c'est quand tu écoutes le chant des oiseaux, ce petit son-là est tellement parfait, c'est tellement beau. Genre, c'est quoi? Tu as des petits animaux, une autre espèce que nous, qui partage la terre en même temps que nous, qui est là, il fait son affaire et dans sa réalité à lui, puis tout à coup, il chante, puis moi, ça m'apporte un agrément que je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Je me mets à me concentrer sur la qualité du son, sur le grain, sur comment il est fait, et je ne sais pas pourquoi. Ça m'envahit d'une émotion intense. J'ai les yeux pleins d'eau, il faut presque que je me cache parce que si je regarde les gens dans les yeux, les passants, je vais avoir l'air folle. Puis, mais c'est pas triste, là, c'est une émotion merveilleuse, là, un moment merveilleux, là, meilleur qu'un orgasme, meilleur que je sais pas quoi, là, c'est extraordinaire. Puis, qu'est-ce qui crée ça? C'est comme un cadeau qui m'arrive et qui ne sert absolument à rien, qui me sort de ma roue de hamster, qui est pas... Je suis tout à coup désenchaînée de cette suite de choses à accomplir qui m'éloigne de la réalité. Et je trouve que dans les mots, c'est la même chose. Les mots sont utiles aussi, là. On fait plein de choses. Même moi, je te dirais, j'utilise la langue, la parole pour, convaincre, militer, amener les gens en grand groupe vers quelque chose en quoi je crois. Mais ça reste du domaine de l'utile, de ma job, de comment je me réalise dans la société, tout ça. Puis tout à coup, j'ai un poème, une phrase écrite sur un mur, un graffiti, ou ça peut être pour n'importe quelle forme, une phrase que j'entends de gens à côté de moi au café. Et je sais pas pourquoi ces mots-là me font l'effet que je viens de décrire avec les oiseaux. Là. Tu sais, je fais « Ah! » Cette phrase-là me tombe dessus, puis C'est pas le train-train utile de ma vie ordinaire à laquelle je suis enchaînée, comme on est tous enchaînés à nos histoires de vie. T'sais. C'est autre chose d'inutile, de vrai, de présent, de lourd et puissant. Puis ça fait un peu ce même effet-là. Ça peut venir nous chercher, puis nous émouvoir, puis bouger des choses en nous. Puis si c'est pas du domaine de l'utilité, en tout cas, c'est du domaine de la santé, ça, c'est sûr. Sa santé dans son sens le plus beau, là, tu sais, sain.
C'est intéressant cet exemple des oiseaux parce que, comme nous ne parlons pas le langage oiseau, la beauté que tu décris, c'est une beauté formelle. Donc, tu disais le timbre, la mélodie, le grain du chant des oiseaux, c'est. Donc là, c'est la beauté formelle de ce chant-là parce que tu n'as pas accès à la part communication du chant des oiseaux qui te touche.
Oui, peut-être, c'est ça. Peut-être, parce que je ne comprends pas ce qu'ils disent, si je trouve ça beau.
Ben, c'est-à-dire que dans un poème écrit en français, évidemment, qu'on comprend on comprend chacun des mots qui sont inscrits dans le poème. Mais après, le poème peut signifier immédiatement ou non. C'est-à-dire que il y a des poèmes qui sont plus basés sur un récit, que ce soit un récit de soi ou autre, et puis il y en a d'autres qui sont des jeux avec la langue, etc., alors que tu comprends les mots, mais le sens premier peut t'échapper, et donc là, il y a une beauté formelle qui s'installe. Est-ce que la poésie est élitiste?
Ben à la base, non. La poésie est vraiment pas élitiste. D'ailleurs, il y a de la poésie dans toutes les langues, des langues populaires, des langues vernaculaires, hyper proches du monde. Puis il y en a d'autres qui s'adressent plus à une élite. Là. Mais la poésie en tant que telle peut s'adresser à toutes sortes de monde. Mais des fois, la façon dont c'est présenté ou enseigné peut donner l'impression que c'est élitiste. En tout cas, l'image de la poésie comme étant élitiste est assez répandue, malheureusement.
Oui, c'est ça, est assez répandue. Et puis, c'est ça, encore, on a eu d'autres invités là, de l'année de la poésie qui avaient l'impression que c'était. On parlait de la poésie intellectualisante. Puis il y avait une confusion, je pense, entre des jeux intellectuels sur le langage et puis des expérimentations formelles de la poésie. Toi, quel genre de poésie tu apprécies?
Moi, j'aime la poésie qui prend les mots de la langue parlée telle qu'elle est parlée à un lieu donné, un endroit donné. J'aime ça, j'aime le slang, là. J'aime ça, l'argot, les langues qui sont vraiment proches du monde, qui existent pour de vrai, qui sont parlées pour de vrai dans des vraies conversations, dans des lieux. T'sais, plus c'est local, plus j'aime ça, dans le sens où si c'est une poésie qui vient de, je sais-tu moi, de la Haute-Mauricie, puis qu'il y a, il y a du slang précisément de cet endroit-là, j'aime ça.
Ben, en fait, tu disais que tu aimais la poésie « grounded » en langage quotidien. Et puis bon, ça me fait penser un peu à la poète que tu as choisie, Marjolaine Beauchamp. Tu pourrais peut-être nous en parler. Pourquoi est-ce que tu as choisi Marjolaine Beauchamp?
Ben déjà, Marjolaine arrive avec une poésie. Tu sais, il y a quelque chose du diamant brut là-dedans. Là. C'est genre, elle a le muscle poétique en elle, elle sait comment s'exprimer. Puis d'ailleurs, même oralement aussi, là, c'est une bonne performeuse. Elle sait comment s'exprimer pour qu'il y ait une espèce de ligne droite en dedans d'elle là, qui allie le cœur, la parole, le cerveau dans un seul jet, là, puis ça sort, puis c'est puissant. Elle parle de choses qui sont vécues largement, mais sous-exprimées. Là. J'ai un poème, je sais pas si c'est ça le titre du poème, mais c'est « On se fait une brigade » qui est comme, qui est le refrain un peu, là. Puis elle parle de toutes ces réalités-là là, de femmes qui se battent avec 3-4 enfants en même temps, dont deux qui ont des problèmes de comportement de ci puis de ça, puis il y en a un qui est ses pilules, puis là, la vie qui t'intimide, puis qui te... Tout est difficile, tu sais, puis c'est un hymne super positif et même un hymne à ces héroïnes-là, là, alors que de premier abord, on pourrait les voir comme des pauvres femmes, mais finalement, c'est la réalité au Québec, là, tu sais, c'est la réalité d'une énorme proportion de gens, là, tu sais, c'est pas juste 2% du monde, là, c'est beaucoup de monde, beaucoup de monde, puis elle exprime ça parce qu'elle vient de là, elle le sait, elle l'exprime d'une façon que même si tu as pu, toi, de ton côté, connaître juste quelques bribes de cette réalité-là, tout à coup, cette réalité-là t'apparaît en entier, tu sais, t'es invité, t'es convié à sentir ça, ce que c'est, sans jugement, juste voici, les choses sont comme ça, sont senties comme ça, ça t'amène dans une espèce d'amour, juste d'amour, je sais pas comment dire ça, mais en même temps, les gens disent que c'est trash, ou tu sais, ça peut être trash, ça peut avoir l'air trash, mais ça l'est pas vraiment finalement, puisque c'est la réalité de tant de personnes, tu sais. J'aime ça parce qu'elle amène sans jugement, puis d'une manière toute douce, voici ce qui est. Elle ne dit pas « pense de même » ou « vois-nous comme ça » ou rien. Voici ce qui est. Puis en le faisant de cette manière-là, assez douce, mais sous des airs trash, là, elle détruit le tabou. Puis je trouve que quand on détruit un tabou, il y a comme ça aide le flow et poétique à arriver au public.
Je pense qu'un bon terme pour décrire le style, ce serait cru. Oui, cru, parce que dans le fond, elle présente la matière comme elle est. T'sais, c'est ça, là. T'sais, mm-hmm. L'histoire est dénudée, pas apprêtée, elle est crue, quoi.
Marjolaine Beauchamp est poète, auteure, interprète et performeuse. Elle a publié 2 recueils de poésie aux éditions de l'Écrou, Au Plexus en 2011 et Fourrer le feu en 2016. La création radio, la médiation culturelle, les concepts de genre et de conciliation travail-famille dans le domaine des arts et les nouvelles écritures font partie de son champ d'intérêt et de l'orientation actuelle de sa pratique.
Marjolaine Beauchamp, Chio, extrait du livre « Fourrer le feu » publié aux éditions de l'Écrou. À partir de là, c'était plus la même game. J'avais pas fini ma job. 1480 grammes. Entubée. Créature steampunk. Acte manqué. Animal chétif. Plugué sur le 220. J'accotais ma poitrine sur la vitre de l'aquarium. Mon cœur techno jammait avec les machines. Je voulais la toucher. Je voulais la toucher, mais je pouvais pas. J'avais assez cassé de choses. Je tirais mon lait, vache industrielle. Ma première nuit sans elle. Petit oiseau. Saute pas. Maman est là. T'étais pressée, hein? Reste. Il y a plein de belles choses. Vite de même, je pourrais pas les nommer, là. Vite de même, je peux juste broyer puis irriter les infirmières. Le protocole social continue, même dans les unités néonatales. Même dans les funérailles, faut avoir peur avec style. Faut être dévasté dans le bon angle. Mes docteurs préférés avaient un voile. Elles avaient la compassion du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, ces endroits d'où on omet volontairement de parler de leur lumière. Dans les dents, Jolin Barrette. Leur voile, c'était la plus belle chose de toute la pouponnière. Leur sourire et leur intelligence. J'en aurais voulu un. Pour draper humblement ma douleur pas propre. Ma détresse de BS. Mon impuissance de mère. Pendant que plein de madames parlaient de débarbouillettes en faisant du quartier aux poussettes, je ratais même mon bébé. Hôpital, bouffe d'hôpital, sourire d'hôpital, vie d'hôpital, Candy Crush saga, Starbucks. Je sentais toujours la smoke, ça faisait paraître mal, j'avais plus d'ego. Chaque check-up devenait variable. 100 jours d'hôpital, 42 jours d'hôpital, jello d'hôpital, odeur d'hôpital, chicane de parking d'hôpital, broyer dans les toilettes de l'hôpital, échapper mon âme à terre dans l'hôpital, vouloir fourrer le feu à l'hôpital. L'incendie final. Celle des forêts abitibiennes, où tu reviens 2 semaines après, puis les pousses vertes tendres ont l'air céleste.
Quand on t'a invité, tu nous as demandé si tu étais invité en tant que poète ou non poète, parce que le concept dit, bon, on demande, on interviewe des gens qui ont... des gens qui ne sont pas à la base poètes, on leur demande de parler de poésie avec nous. Et donc, tu écris de la poésie, Catherine?
Oui. Ben là, ça fait un bout que je n'ai pas écrit, par exemple, avec ma job de fou, puis le bébé qui pleure, puis toute la vie. Ça, c'est le thème récurrent de notre entrevue, là. Je suis dans le moment présent, il n'y a plus de place. Là. C'est vraiment... donc, pour la poésie, je ne pourrais pas toffer longtemps de même. Tu sais, je sais que c'est... Il y a quelque chose du temps emprunté en ce moment-là. Fait que, il y a des périodes de même dans la vie, là, tu sais, mais je ne peux plus écrire de poésie en ce moment. Je trouve ça bien triste, d'ailleurs, de dire ça comme ça.
Quel était ton rapport à la poésie quand tu en écrivais? En tant que... Parce que tu as un rapport à la poésie quand tu la vis, quand tu la lis, mais quand tu l'écris, est-ce que c'est différent?
Non, c'est comme c'est juste une façon d'écrire pour moi. C'est que quand j'écris, je suis dans ma tête, je veux me construire des phrases, puis tout à coup, je sais pas pourquoi, tout à coup, quand je suis les bonnes journées, arrive une espèce d'émotion qui va diriger l'écriture, que j'appelle être inspirée. Puis quand cette inspiration-là vient, des fois je trouve ça plus simple d'écrire d'une manière qui n'est pas formelle, qui n'est pas des phrases normales. Finalement, je veux plus de liberté dans la façon de construire des morceaux de concept, des choses, tu sais, je veux plus faire des phrases avec un début, un milieu, puis une fin, puis ça fit plus avec l'émotion que j'ai à ce moment-là, fait que je me mets à écrire de façon plus libre, je veux plus de forme, tu sais, puis le plus de forme ressemble à un poème, je me dis, tiens, on va dire c'est de la poésie.
J'allais dire, la poésie, c'est avoir un rapport libre au langage, sauf que dans ta définition, la poésie, ce n'est pas, n'a pas à faire qu'au langage. Mais donc, c'est avoir un rapport libre à la vie, à tout, à son environnement.
Oui, la poésie, c'est la liberté, mais d'un point de vue... d'un point de vue psychologique, on dirait, aujourd'hui, là, je sais que ma définition est très... peut-être juste aujourd'hui au Québec. Je ne sais pas, tu sais, je prétends pas faire une définition large, mais je pense que, en tout cas, pour beaucoup de monde, là, en ce moment, dans notre monde, la poésie, c'est juste des développements de liberté subis par moment qui trouvent le moyen d'exister malgré la densité de nos vies, là.
Production de Rhizome qui remercie CKRL. Et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.